Vous écoutez RTL.
Il est 18h. RTL Soir.
Quentin Vinet.
Bonsoir à tous, cela va faire 4 mois. 4 mois se sont écoulés depuis les attentats du 13 novembre à Paris. Pour la première fois, hier et aujourd'hui, les survivants du Bataclan ont pu venir se recueillir à l'intérieur de la salle de spectacle. RTL y était. Qu'ont-ils bien pu se dire? Une réunion a duré près de 2 heures cet après-midi à Paris. La SNCF invitée dans la capitale. Les familles des victimes de la catastrophe ferroviaire qui a fait 11 morts à l'automne en Alsace. Ils réclament une révolution française. Vous allez entendre Bruno Le Maire dans ce journal, candidat à la primaire de la droite pour 2017. Il n'a pas mâché ses mots aujourd'hui à l'occasion du premier gros meeting de campagne. Dans ce journal également, veille de fermeture au salon de l'agriculture. Et puis révolution en perspective dans le monde du football. La FIFA donne son feu vert pour l'utilisation de la vidéo dans les stades. D'ailleurs, il y a un match en ce moment. En Ligue 1, Paris reçoit Montpellier. Philippe Sanfourche, quel est le score?
Eh bien, c'est la mi-temps et c'est toujours du 0-0 entre les deux formations. Paris a 4 jours, vous le savez, de son rendez-vous de Ligue des Champions. Match retour face à Chelsea. Laurent Blanc gère donc son effectif, beaucoup de remplaçants. Ça se sent dans la qualité de jeu. 0-0 à la mi-temps.
Merci Philippe, on va revenir vous voir. Nous irons également en Guadeloupe où les tennismen français ne sont plus qu'à une victoire de la qualification pour les quarts de finale. En Norvège, Martin Fourcade est décidément le roi du biathlon, encore sacré champion du monde aujourd'hui, vous allez l'entendre. Le quintet à Vincennes aujourd'hui, il fallait jouer 10, 12, 14, 6, 8. On refait les courses, votre rendez-vous du samedi, c'est dans une vingtaine de minutes. Sur la route, plus aucun souci ce soir à Isola 2000 dans les Alpes du Sud. La route était coupée ce matin, la route pour accéder à la station à cause de la neige. Quel sera le temps pour demain, Patricia Charbonnier?
Alors c'est un petit peu frais quand même pour la saison ce week-end. Les températures sont en dessous des normales de saison. Moins 2 degrés demain matin à Aurillac, 2 degrés à Lille et Paris, 8 à Bastia, température de l'après-midi, comprise entre 4 et 14 degrés avec 5 à Mulhouse, 8 à Paris comme à Brest, 12 à Marseille et 14 à Bastia. Alors côté ciel, après les bonnes chutes de neige de la journée, ça se calme ce soir. L'alerte à la neige est complètement levée. La perturbation des jeux s'est évacuée vers l'Allemagne, mais demain, nous aurons encore de l'instabilité. Donc encore des averses de neige pour demain matin jusqu'en plaine sur le quart nord-est du pays, sur la Lorraine par exemple, l'Alsace, la Bourgogne ou encore la Franche-Comté. Beaucoup de grisailles partout ailleurs. Une petite amélioration quand même qui va se dessiner par la côte atlantique, qui va gagner du terrain demain dans l'après-midi sur la moitié ouest avant une nouvelle dégradation pluvieuse qui se fera surtout sur le sud de l'Aquitaine à partir de demain après-midi. Et puis dans le sud-est, entre les Alpes et la Méditerranée, c'est vraiment une très très belle journée qui s'annonce. Demain, c'est du grand soleil. Mais attention, après les fortes chutes de neige, le manteau neigeux est encore très instable. Donc le risque d'avalanche reste très élevé pour demain toute la journée sur les Alpes.
Et bien justement, Patricia, dans les Alpes, justement, le risque d'avalanche est de 4 sur une échelle de 5. D'où cet appel à la prudence du brigadier chef Emmanuel Dubost, CRS de montagne à Albertville.
Il a beaucoup neigé cette semaine, comme on dit, il a neigé à l'horizontale. Il y a eu beaucoup de vent, donc beaucoup de déplacements de neige. C'est favorable à la formation des plaques à vent, et donc très dangereuse dans les versants les plus raides, les plus escarpés. Il faut rester vraiment près des pistes, pas aller chercher forcément des beaux itinéraires pentus, grands, qui font rêver, mais qui actuellement sont vraiment critiques.
Voilà, prudence donc.
RTL Soir. Quentin Vinet.
C'était le 13 novembre au soir. Ils étaient des centaines à l'intérieur du Bataclan quand 3 terroristes sont entrés armés en ouvrant le feu. Chacun connaît le bilan. Il y a eu 130 morts ce soir-là dans la capitale et 90 dans la salle de spectacle. 4 mois plus tard, les rescapés des attentats et les familles des victimes ont pu retourner à l'intérieur du Bataclan. Mélina Fachin, hier et aujourd'hui, ils sont retournés pour se recueillir dans cette salle qu'ils ont fui le 13 novembre au soir.
Oui, François voulait absolument revoir l'endroit où sa vie a basculé. Avec d'autres rescapés en petits groupes, certains fleurs à la main, ils s'engouffrent dans le bâtiment. Il y reste une petite heure avant de ressortir, plutôt serein, presque souriant.
Je ressentais le besoin de venir pour boucler une boucle, voir un petit peu ce qu'on avait vécu. J'ai juste un petit regret, c'est qu'on n'ait pas pu visiter les loges où on a pu se cacher pendant 3 heures. Mais le fait de pouvoir rentrer, revenir ici au Bataclan, c'était une chose importante.
Ce soir du 13 novembre, François s'est barricadé dans une petite pièce avec d'autres spectateurs. Il a entendu les tirs, les cris, les voix des terroristes. Aujourd'hui, la salle de concert est toujours en travaux. Et le jeune Parisien n'a pas reconnu cet endroit qu'il aime tant.
C'était un décor du Bataclan très froid où on voit encore quelques échelles, quelques pots de peinture qui sont présents. Moi, à titre personnel, je pense que ce serait bien de garder le Bataclan dans son jus, comme on l'a connu le 13 et comme on l'a toujours connu, quoi.
François assure qu'il va bien, que cette nuit d'horreur est désormais derrière lui. Il ne lui manque plus qu'une chose pour vraiment tourner la page, la réouverture du Bataclan prévue pour la fin de l'année, avec, il l'espère, sur scène ce soir-là, les Eagles of Death Metal.
Reportage signé Mélina Fachin pour RTL. C'était le lendemain des attentats. Un train déraillé en Alsace lors d'un essai sur une ligne TGV. Le bilan était de 11 morts et 42 blessés. On sait depuis aujourd'hui, en lisant le journal Le Parisien, que la feuille de route n'a pas été respectée et que l'ordre de freiner a été donné 12 secondes trop tard. Pour la première fois depuis ce dramatique accident, la SNCF a convié à Paris aujourd'hui les familles de victimes et certains blessés. Gauthier Delambugard, vous êtes dans le 15e arrondissement de la capitale où avait lieu cette réunion. Que s'est-il dit, Gauthier ?
Eh bien, devant les victimes et leurs proches, Guillaume Pépier est d'abord revenu sur les circonstances de l'accident. Il assume la faute de la SNCF, un freinage trop tardif de 12 secondes, vous l'avez dit, un TGV qui roulait à 243 au lieu de 276. Mais d'où vient précisément cette erreur ? Eh bien, l'avocat des victimes, Gérard Chemla, n'a pas eu la réponse.
Le freinage a été fait trop tardivement et vraisemblablement du fait d'une erreur humaine. Qui a commis cette erreur et est-ce que cette erreur, elle n'aurait pas dû être contournée par les mesures de sécurité qui doivent normalement présider à ce genre d'essai.
Et puis il a ensuite été une question du casse-tête de l'indemnisation des victimes. Personnel SNCF ou invité sur la rame d'essai, il n'y aura pas de différence, comme l'explique Stéphane Jiquel. Il est président de la Fédération nationale des victimes d'accidents collectifs.
Tout le monde va être indemnisé selon les mêmes règles, alors qu'on sait qu'on est sur des situations différentes. Il y a des gens qui étaient en accident de travail, il y a différentes sociétés, il y a des gens qui n'avaient pas de statut, qui étaient invités, mais on n'était pas dans un train en exploitation commerciale. Et le message fort de l'indemnisation, c'est de dire justement, on va aligner tout le monde sur les mêmes règles. Et bien évidemment, personne ne sera laissé de côté sur le plan de l'indemnisation.
Le protocole d'indemnisation va maintenant être mis en place. Les victimes et leurs familles n'ont pas souhaité s'exprimer à la sortie de la réunion. Elles attendent désormais le rapport des experts judiciaires.
Merci Gauthier Delambugard depuis le 15e arrondissement de Paris pour RTL. Et puis plus aucun train ne circule sur la Côte d'Azur depuis la mi-journée. Le trafic est interrompu entre Nice et Vintimille en Italie à cause d'un problème d'alimentation électrique. C'était une lycéenne de 15 ans. Elle travaillait, semble-t-il, très bien à l'école. Mais cette semaine, jeudi matin, cette jeune lycéenne s'est suicidée en se jetant sous un train en Normandie. D'après les policiers, elle ne supportait pas que des photos intimes où elle apparaissait circulent de téléphone portable en téléphone portable. Julien Caillard, vous êtes dans la ville de Lisieux pour RTL. Une chose est certaine ce soir, il y a beaucoup d'émotions chez les élèves de son établissement scolaire.
Oui, ici à Lisieux, élèves, parents et enseignants sont marqués. Tous ont été mis au courant du drame. Des premiers éléments de l'enquête aussi. Dans l'établissement, une aide psychologique a été mise en place dès jeudi. Une minute de silence a été respectée hier. Ce drame, personne ne s'y attendait. Vincent, l'un des élèves du lycée.
Elle était souriante en cours, il n'y avait pas de problème. Elle était rigolote, amicale. Elle n'avait pas l'air plus mal à l'aise qu'une autre personne. Et faut croire que si.
Que le drame puisse être lié à la circulation de photos compromettantes, c'est évidemment ce qui choque le plus.
Elle a choisi de mourir parce qu'elle était mal à l'aise. Ça va marquer à vie, ça c'est sûr. Il faut vraiment parler, oui. Il faut sensibiliser. Moi, j'ai Facebook, tout ça. Faut pas pourrir la vie de ceux qui sont frappés de plein fouet et violemment.
Marie-Pascale Itier est l'une des représentantes des parents d'élèves.
Oui, ça fait froid dans le dos. On a tous peur pour nos enfants. Un drame, une fille très brillante, paraît-il, qui a manifestement pas supporté cela.
L'enquête est en cours. Le corps de la jeune fille sera autopsié lundi. Ses camarades devraient se mobiliser la semaine prochaine pour lui rendre hommage.
Julien Caillard, en Normandie pour RTL. Environ 700 manifestants se sont retrouvés cet après-midi à Aulnoy, après, dans le Nord, comme ils l'ont marqué sur des banderoles. Ils comptaient défendre l'emploi dans l'industrie et ils préviennent. Ce n'est que, je cite, un préambule à la grande manifestation de mercredi prochain contre le projet de loi El Khomri. En Haute-Savoie, la gendarmerie lance un appel à témoins. Dans la ville de Seynod, à côté d'Annecy, plus personne n'a de nouvelles de deux adolescentes de 15 et 16 ans, sans doute radicalisées et peut-être déjà à l'étranger, d'après les gendarmes. Il est 18h09 sur RTL. On va marquer une pause et on revient dans un instant. Nous irons porte de Versailles à Paris puisque c'est demain que le salon de l'agriculture va fermer ses portes.
RTL Soir, Quentin Vinet.
La 53e édition du Salon de l'agriculture aura été une édition exceptionnelle. Ce sont les mots de Xavier Belin, le président de la FNSEA, premier syndicat agricole en France. La colère du monde agricole paysan ne retombe pas. Il y a encore eu une action coup de poing aujourd'hui. Des éleveurs ont lâché des petits cochons dans un centre commercial à côté de Rennes. Dans ce contexte de crise, les fameux concours ou les défilés avec les animaux au Salon de l'agriculture sont presque passés inaperçus. Pourtant, il y avait véritablement deux stars cette année. D'abord, la vache Cerise, vous l'avez sûrement aperçu, c'est elle qui est en gros sur l'affiche officielle de ce salon. Et puis, le taureau fêtard. Attention, ce n'est pas n'importe quel taureau, c'est tout simplement le plus lourd du monde. Il pèse quasiment 2 tonnes et il est véritablement l'attraction auprès des visiteurs. Élodie Guillard, tout le monde, véritablement, tout le monde veut le prendre en photo.
Oui, fêtard prend volontiers la pose.
Allez, souris, allez, fêtard. Voilà, t'es, regarde. Ah, il est beau, hein.
Il s'est habitué au flash, heureusement, car les visiteurs lui laissent peu de répit. Le taureau est devenu ici un incontournable du salon qui fait fondre le cœur des femmes.
La puissance, la force, le tout, quoi. Il est énorme, il est très beau. Ouais. Il est joli, il est mignon, il a des beaux yeux doux. Il est imposant. Je ne voulais pas venir au salon sans voir Feta, parce que je suis instite en maternelle et j'ai promis à mes élèves qu'il y aurait des photos, parce que c'est le champion du monde.
Des compliments sur les attributs généreux de Fêtard à faire pâlir de jalousie certains hommes.
On peut dire que Fêtard est gâté par la nature.
Près de 2 tonnes, cela laisse songeur le petit Noah.
En mangeant du foin, comment on peut devenir aussi gros?
En tout cas, mieux vaut garder ses distances.
Il fait un peu peur, parce que s'il est en liberté et que si t'es dans un champ avec lui, vaut mieux pas aller avec lui.
Et pour Fêtard, plus que 24 heures avant de retrouver le calme du Loir-et-Cher.
Et merci Élodie Guillard. Et puis dans les allées du Salon de l'agriculture, voilà une absence qui aura été remarquée aujourd'hui. Pour la première fois depuis 25 ans, Ségolène Royal n'est pas venue dans la plus grande ferme de France, officiellement pour une raison d'agenda. La ministre de l'Environnement et de l'Énergie devait être la dernière personnalité politique de premier plan à se rendre porte de Versailles. L'actualité politique de ce samedi, c'est aussi le premier grand meeting d'un candidat à la primaire de la droite et du centre pour 2017. Ce candidat, c'est Bruno Le Maire. Depuis qu'il a déclaré sa candidature il y a 10 jours à Vesoul, il multiplie les sorties, les déclarations dans la presse. Aujourd'hui, Bruno Le Maire s'est exprimé devant un peu plus de 2000 personnes à Aubervilliers, juste à côté de Paris. Et une fois encore, il a tenté de se démarquer de ses concurrents, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy. Écoutez, vous allez l'entendre.
Je n'ai jamais gouverné la France, je n'ai jamais été ni Premier ministre, ni Président de la République. Et je pense qu'il est peut-être temps qu'on laisse une nouvelle génération prendre ses responsabilités et incarner notre pays, incarner une volonté nouvelle, incarner une force nouvelle. C'est ce qu'attend le peuple français depuis des décennies et c'est ce dont il a été privé par des responsables politiques qui n'ont pas tenu parole, pas respecté leurs engagements, renié leurs promesses. Voilà la nouvelle révolution française, celle qui redonnera le pouvoir aux citoyens. La nouvelle révolution française qui rendra le pouvoir à vous, le peuple, à chaque femme, à chaque homme, à chaque citoyenne, à chaque citoyen. Portez cette nouvelle révolution française. C'est vous qui ferez la différence.
Voilà, Bruno Le Maire au micro RTL de Dominique Tenza. Bruno Le Maire qui reconnaît et c'est à souligner que la loi sur le travail est, je cite, une bonne proposition du gouvernement. Et puis toujours à propos de 2017, les centristes de l'UDI n'excluent pas de partir seul pour la présidentielle. Leur président, Jean-Christophe Lagarde, explique dans le journal Le Monde qu'il n'a toujours pas trouvé d'accord avec les Républicains. 18h et bientôt 15 minutes sur RTL. On va retourner au Parc des Princes à Paris où le PSG joue en ce moment contre Montpellier. Philippe Sanfourche, toujours 0-0.
Oui, on est en seconde période, 58 minutes de jeu précisément, et toujours 0-0. Le Paris Saint-Germain qui, on le rappelle, a surtout la tête à Chelsea, à Londres, dans 4 jours pour son match retour de Ligue des Champions. Donc beaucoup de joueurs sur le banc de touche, comme Zlatan Ibrahimovic ou encore David Luiz, Thiago Motta, ce qui fait qu'on a une équipe très remaniée. Forcément, les automatismes fonctionnent un petit peu moins bien. Et du coup, c'est un match qui n'est pas désagréable, mais où on a moins de fulgurance que d'habitude. Donc 0-0. 59 minutes de jeu.
Merci Philippe Sanfourche. Tenez, le football, on va y rester. Sur la planète foot, certains parlent déjà d'une révolution. La FIFA va autoriser pour les deux prochaines saisons l'utilisation de l'assistance vidéo. Et ce, à titre expérimental. La vidéo arrive lentement, mais sûrement. La Fédération française fait déjà savoir qu'elle est favorable à cette expérimentation. De quoi s'agit-il exactement, Christian Olivier ?
Alors, peut-on parler de révolution ? Oui, sur le fond, mais sur la forme, les vieux sages du board qui édictent ou modifient les lois du jeu n'ont pas fait preuve d'une grande clarté. Donc, l'arbitrage vidéo sera admis à compter de la prochaine saison dans quatre situations. Une, les expulsions, afin de ne pas faire d'erreur sur l'identité du joueur fautif. Deux, les pénalties, faute ou pas faute, dans la surface de réparation. Trois, l'identité du joueur qui commet une faute, afin de lui décerner un carton jaune, par exemple. Enfin, quatre, déterminer si un ballon a franchi la ligne de but, la fameuse goal line technologie qui est déjà en marche. Problème, à Cardiff, entre la poire et le fromage, les vieux sages annoncent que ces tests seront effectués offline, c'est-à-dire sans communication entre l'arbitre central et le nouvel assistant vidéo, cela durant la saison 2016-2017. Puis, online, c'est-à-dire avec communication, durant la saison 2017-2018. En clair, durant toute la prochaine saison, ou presque, l'assistance vidéo sera autorisée, mais à titre expérimental et toujours pas in fine de façon officielle. Ce sera une sorte d'expérience à blanc. Et puis surtout, rien sur les fameux hors-jeu ou pas hors-jeu, qui continueront donc de faire les délices des débats de « on refait le match ». Alors peut-on parler de révolution ? J'enlève le R. Pour l'instant, il s'agit d'une évolution.
Merci Christian Olivier, puis on vous retrouvera ce soir pour le multiplex RTL, l'équipe, ce sera
18h30
pour les matchs à 20h.
Et 19h30, le multiplex.
Avec 5 matchs à 20h, ce que je voulais dire. Bastia-Lorient, Nice 3, Bordeaux-Ajaccio, Angers-Saint-Etienne et Lille-Reims. En tennis, sauf catastrophe, la France va se qualifier en quart de finale de la Coupe Davis. C'est la première de Yannick Noah, vous le savez, ça se passe en Guadeloupe. Les Bleus ont gagné les deux premiers matchs hier. Et alors Isabelle Langer, tout à l'heure, 19h, heure de Paris, les copains de Tsonga et Gasquet vont tenter eux aussi de participer à la fête.
Oui, les deux meilleurs joueurs français réservés pour le double n'attendent en effet que ça. C'est la troisième fois qu'ils seront associés en Coupe Davis. Et pour le moment, ils sont invaincus. Deux matchs gagnés à chaque fois sur terre battue. Et sincèrement, sur le papier, ce sont eux les favoris. Même si leur capitaine Yannick Noah, eh bien lui reste sur ses gardes.
La dynamique d'un double et le score d'un double, c'est beaucoup plus sensible, c'est beaucoup plus délicat. Puis on a en face des spécialistes, nous on a une équipe qui est très très forte, de toute façon ils sont préparés pour le double. Mais un double, ça peut tourner très très vite. Donc oui, on veut gagner ce point. Et c'est vrai que des fois, on peut être ultra favori. Et du coup, il peut y avoir un environnement où les gens se relâchent un petit peu. Moi, j'aime bien quand les supporters sont tendus. Et s'ils ne le sont pas, ce n'est pas très grave. On va essayer de gagner et puis partager ça avec eux après.
Ah oui, c'est comme hier, hein, les 7000 spectateurs attendus ici au Vélodrome de Baie-Mahault devraient mettre une belle ambiance sous un soleil de plomb pour la première fois depuis le début de la semaine. Ce n'est pas nous qui allons nous en plaindre.
Vous avez de la chance, Isabelle Langer, en direct de la...
Chaleur, hein. Franchement, il fait très très beau.
En Guadeloupe pour RTL, merci Isabelle. Un résultat de rugby, ça n'arrive pas souvent. Il y a eu un match nul cet après-midi, 21 partout, entre Brive et Toulouse, match de top 14. Et alors, fait rarissime, les Toulousains auraient pu s'imposer, hein. Ils auraient pu gagner ce match, mais un coup de pied de transformation de Sébastien Mézi, l'international, à la toute fin du match, a été contré avant de passer entre les perches. Dans les montagnes, on attendait aujourd'hui le skieur Alexis Pinturault. Il pouvait détrôner la légende Jean-Claude Quigny en nombre de victoires en Coupe du Monde. Finalement, en Slovénie, le jeune Français a terminé deuxième. C'est un autre tricolore qui a brillé. En Norvège, cette fois, Martin Fourcade est encore devenu champion du monde de biathlon. Ce matin, il a gagné dans l'épreuve du sprint et bientôt, il n'y aura plus de place sur son étagère tellement il a de médailles autour du cou. 8 titres mondiaux.
J'ai pas gagné le sprint des mondiaux depuis 2012 et c'est vraiment à chaque fois l'événement qui consacre pour moi le meilleur skieur parce qu'il n'y a pas de fioriture sur un sprint, c'est vraiment le meilleur qui gagne. C'est simple, c'est facile à comprendre, ça va vite, c'est rapide et j'ai gagné. Ouais, je crois que je suis super content parce que je crois qu'aujourd'hui c'est la victoire de la simplicité. J'ai pas essayé de faire des choses que je fais pas d'habitude, j'ai pas essayé d'inventer des choses, de mettre des gardes du corps devant ma salle à manger à l'hôtel. J'ai fait ça. J'ai fait comme on fait d'habitude et puis ça marche bien.
Voilà Martin Fourcade qui a encore une chance de briller. Ce sera demain dans l'épreuve de la poursuite à ces championnats du monde. On va retourner au Parc des Princes, le football, la Ligue 1 et le Paris Saint-Germain qui n'y arrive pas, Philippe Sanfourche, face à Montpellier.
Alors, toujours 0-0, 63 minutes de jeu. Zlatan Ibrahimovic et Javier Pastore viennent de rentrer en jeu. Ça va peut-être changer la donne. Surtout, il faut qu'ils se chauffent pour mercredi prochain face à Chelsea.
Merci Philippe Sanfourche. Allez, on va marquer une pause et dans un instant, on refait les courses.
RTL Soir.
Quentin Vinet.
On refait les courses avec Bernard Glass.
Bonsoir et Quentin.
Pierre Santi. Bonsoir messieurs.
Bonsoir Quentin.
C'était aujourd'hui la clôture du meeting d'hiver à Vincennes. Il est l'heure de dresser un premier bilan, Bernard.
Et oui, ce fut un beau final cet après-midi qui a souri comme durant tout le meeting à l'entraîneur Sébastien Garato. Il a remporté Claude les deux courses principales du jour, le prix de sélection, le Quintet, et le prix de l'Union Européenne.
Dernier groupe 1 du meeting, prix de sélection, gagné par Bolerolov. Donc, troisième victoire d'affilée pour Sébastien Garato, qui avait gagné avec Alain Descajeul et Bold Eagle. Il faut signaler que les 8 premiers de cette course-poursuite s'étaient élancés du poteau des 25 mètres, ce qui n'était jamais arrivé. Et il a enchaîné une heure plus tard avec le prix de l'Union Européenne, gagné par Ustinov du Vivier. Donc, après Rapide Lebel à 2 reprises, Ustinov du Vivier a mis en évidence l'entraînement de Sébastien Garato. Sébastien Garato a été l'entraîneur tête de liste de l'hiver. Il faut dire qu'il a évolué dans un monde très très concurrentiel. 13 victoires de groupe 1 pour lui, 13 victoires de groupe pour lui, devant Philippe Allaire 12 et Fabrice Soulois 11.
Alors ce meeting d'hiver est donc terminé au bout de 4 mois et j'avoue ne pas l'avoir vu passer cette année tant tout s'est bien déroulé et bien enchaîné. D'ailleurs les chiffres sont là pour le prouver. Comme l'a confirmé il y a quelques instants Guillaume Maupas, le directeur technique du Trot, grand organisateur de ces épreuves hivernales.
C'est à la fois un meeting réussi mais c'est aussi un meeting populaire. Réussi parce que nous n'avons pas eu de controverses sur l'arrivée des grandes épreuves, notamment le Grand Prix d'Amérique, le Prix de France, le Prix de Paris. Donc ça, c'est une première satisfaction. Et puis deuxièmement, au niveau des enjeux également, qui ont accompagné ce meeting, puisque en données brutes, avec 5 réunions supplémentaires, nous sommes à peu près à une augmentation de 5% des enjeux. Et puis en données comparables, par rapport à nos prévisions budgétaires, nous sommes à plus de 2%. Donc il y a eu un réel engouement des parieurs et du public pour ce meeting, et c'est une vraie satisfaction.
Notamment pour les 3 épreuves les plus importantes de votre hiver.
Oui, alors nous avons eu la chance d'avoir un grand champion au départ de ces 3 courses qui s'appelle Bold Eagle. Il a été soutenu par le public sur l'hippodrome mais aussi par les parieurs. Et effectivement, à chacune de ses apparitions, lorsqu'il a couru et gagné d'ailleurs le Prix d'Amérique, le Prix de France et puis couru le Prix de Paris, nous avons eu des enjeux qui étaient en hausse.
Alors qu'est-ce qu'on pourrait peut-être améliorer pour l'an prochain
Nous avons eu un problème, un bémol à apporter à la qualité du programme présenté. Cela concerne les courses qui sont ouvertes aux chevaux de 5 à 10 ans, des chevaux qui sont très populaires. Et là, nous avons eu un manque de partants assez significatif dans toutes ces belles épreuves que nous n'avons pas pu retenir comme Paris Quintet. Donc, il y a une réflexion à avoir. Est-ce que ce sont les conditions de course qu'il faut revoir? Est-ce que c'est le calendrier? Est-ce que c'est le nombre trop important de ces courses tout au long du meeting? Voilà, il y a plusieurs pistes à explorer, mais il faut absolument qu'on trouve une solution parce que ce n'est pas normal, ça fait partie aussi du meeting d'hiver.
Oui, donc un petit problème à régler pour l'an prochain. Claude Piersanti, 2 autres champions évidemment se sont mis en évidence. Bold Eagle pour les chevaux et Franck Nivard pour les cavaliers.
Oui, 2 acteurs exceptionnels. Bold Eagle a tiré vers le haut ce meeting d'hiver de Vincennes. Il a gagné 946 000 euros. Il faut savoir que seul Jacques de Bellouette a fait mieux par le passé avec 1 137 000 euros. Et bien évidemment, Franck Nivard, Franck il a main froide, il a crevé tous les plafonds. Record de victoires dans les courses de groupe, 24. Record de gains pour un driver. Record de gains au cours. Combiné, c'est-à-dire que attelés montés, les chevaux confiés à Franck Nivard ont gagné plus de 4 600 000 euros.
Au galop, les femmes seront à l'honneur jeudi prochain à Deauville. À l'occasion de la journée de la femme, le quintet leur sera associé. Et c'est bien normal, car il y a à ce jour 220 femmes entraîneurs de chevaux et 95 jockeys ou cavalières amateurs.
Et demain, le quintet aura lieu à Auteuil d'ores et déjà. Ce que l'on peut dire, c'est que ce sera une épreuve relevée.
Oui, c'est la reprise des courses d'obstacles à Auteuil avec une très belle réunion dominée par le retour en piste de l'invaincu Blue Dragon dans la 6e course. C'est le meilleur 5 ans sur les haies. Et en général, il l'emporte avec une dizaine de longueurs d'avance sur ses adversaires. Ce qui est toujours spectaculaire. Le Quintet, vous l'avez dit, réunit lui 16 concurrents dans la 3e course, le prix Robert de Clermont-Tonnerre. C'est une épreuve de groupe pour Steeplechaser et on trouve au départ des sauteurs de grande qualité, mais c'est très ouvert car d'une part, certains font leur rentrée et ne sont évidemment pas à 100%, et d'autre part, peut-être que les très bons ne vont pas être totalement offensifs car ils ont d'autres objectifs. C'est mon avis, est-ce le vôtre, Claude ?
C'est-à-dire qu'en temps normal, lorsqu'il s'agit d'un gros handicap, on se pose la question de savoir s'il faut privilégier les rentrants ou les chevaux qui ont fait les meetings de Pau et de Cannes-sur-Mer. Là, on est dans une configuration donc course de groupe avec des chevaux qui vont avoir de grosses ambitions. Ils sont sept à effectuer leur rentrée et je pense qu'il faut concentrer son attention et chercher ses bases parmi ses rentrants, Bernard.
Un cheval qui vous intéresse particulièrement, Claude ?
Pas qu'un. Je pense que les deux pensionnaires de Guillaume Mappert, As d'Estruval, le numéro 9, et Zo French, le numéro 8, sont à prendre en considération. Et dans le haut du tableau, Jamie B et Saint-Palois, qui sont montés sur le podium du prix Georges Courtois à l'automne, ont également le droit de finir dans les cinq premiers.
Et moi, j'insiste sur Solway, le 15, entraîné par Guy Chérel, qu'il estime apparemment beaucoup. Et d'ailleurs, il a accepté que David Cotin porte un kilo de plus que son poids véritable pour lui être associé. Méfiance donc. Et voici notre pronostic commun pour ce quintet.
Allez-y.
As d'Estruval, je y vais, le 9. Jamie B, l'As. So French, le 8. Saint-Palois, le 2. Solway, le 15. Albuc, le 14. Forfing, le 7. Et Diamant Catalan, le 10. Les numéros à 9, As, 8, 2, 15, 14, 7 et 10. Quentin, pour ce quintet, demain sur l'hippodrome d'Auteuil.
C'est tout noté. Merci Bernard Glace. Merci Claude-Pierre Santi. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Ce que je vous propose, c'est qu'on va aller au Parc des Princes. On va retrouver Philippe Sanfourche pour le match du PSG contre Montpellier. Où en est-on, Philippe ?
Toujours pas de but à 20 minutes de la fin. 0-0 entre le PSG et Montpellier.
Merci Philippe. L'équipe dont refait le match est en train de se mettre en place autour de vous. Pascal Pro. Bonsoir Pascal.
Bonsoir. Alléluia. Alléluia. La vidéo arrive dans le football. Enfin, on va. La technologie vient au secours de l'arbitrage. Et ben moi, je suis content, mais je suis pas forcément majoritaire.
On entend ça. Merci Pascal. Une pause et c'est à vous. Bonne soirée à tous sur RTL.